Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et salut tout le monde, bonjour, merci d'être avec nous pour ce samedi matin. Nous sommes le 15 février, j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin. Salut Pierre.
Salut Lolo, moi Saint-Valentin, génial comme d'habitude.
Bah ouais, avec maman, tout ça. Enfin maman.
Ouais, si.
Madame. Ouais. Enfin madame qui est maman.
Oui, bah oui, bah, oui. C'est le principe. En principe du couple, c'est qu'au bout d'un moment, ça finit toujours comme ça.
Hein. Aujourd'hui, on va retrouver Gaspard dans quelques instants pour notre journal de l'auto de la semaine. Mais nous allons parler d'un sujet avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. On va
Le boss
François Roudier, directeur de la communication du CCFA, c'est le comité des constructeurs français d'automobiles, et on va parler de l'explosion, entre autres, des voitures, de la vente des voitures d'occasion.
Alors, des ventes, hein, pas des voitures, d'accord. Une voiture, ça n'explose pas, à part dans les films américains. Ça brûle peut-être, mais ça n'explose pas. Il n'y a pas de kérosène à l'intérieur.
Non.
En tout cas, on vend de plus en plus de véhicules d'occasion. Ça, c'est une réalité. On a un indicateur qui nous dit que les chiffres de janvier 2020 mettaient en avant une chute, selon les médias, des immatriculations de voitures neuves, mettant en avant le fait que la voiture, c'était fini. Et en fait, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que les constructeurs, bah, pour vous éviter du malus écologique, ils avaient mis quelques voitures au frigo. Bon, bref, on va en parler avec le boss, avec François Roudier qui sera à nos côtés.
Et puis, nous aurons aussi le plaisir, d'ici, allez, on va dire une petite heure, à peine, de découvrir un site qui s'appelle vendezvotrevoiture.fr. Et on sera avec la personne en direct, le directeur France. Bah voilà, on va rester aussi dans la vente d'occasion, là.
Oui, et puis un deuxième sujet que je voudrais très sympa, parce que est-ce que vous avez déjà rêvé de faire 1000 km avec un plein d'essence? Ah, ça devient intéressant, ça.
Oh bah oui.
Eh bien, on en parlera avec notre invité mystère dans quelques minutes. Je ne l'ai pas dit à Laurence, parce que je sais qu'elle l'aime bien. Alors, je ne vais pas lui dire tout de suite.
Est-ce qu'il n'y aurait pas du Honda derrière ça?
Hein, c'est fort probable que Steve soit là. Parce que de toute façon, Steve M. Salem, il est toujours là quand il y a François Roudier. Ils s'entendent bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Oui, et puis parce que j'ai dans la tête une publicité pour cette fameuse marque. Et cette publicité actuelle annonce de faire 1000 km avec un fameux CRV Honda de chez Hybrid, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et puis,
qui
tourne, à l'essence, qui ne tourne pas au diesel. Mais c'est la preuve, et je pense que François Roudier sera d'accord que l'industrie automobile recherche, progresse, trouve des solutions. Et quand on voit par exemple certains politiques qui vous disent « Moi j'ai une idée brillante, moi ce matin je me suis réveillé, j'ai une idée de génie. Et si on mettait une taxe sur le poids du véhicule ?» Eh bien il n'y a pas plus débile, parce que lorsque vous mettez en avant un nouvel élément de sécurité dans l'habitacle, il pèse du poids, 200 grammes, 300 grammes, 1 kilo, 5 kilos. Vous le mettez dessus, votre voiture pèse plus lourd. Et pendant ce temps-là, la recherche et développement vous permet d'économiser le carburant et donc de consommer moins et donc de polluer moins. Vous voyez à quel point c'est stupide ces arguments. Eh bien, on en parlera notamment avec Steve M. Salem. On parlera beaucoup SUV aussi, ces véhicules que vous aimez, que vous achetez et qui sont diabolisés.
Eh bien, on continuera évidemment à vous donner la parole au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Mais je sens ça, je vois ça. Mais ça vous va bien le samedi matin en général?
J'ai la pêche.
Ça s'entend, c'est bien. Allez, à tout de suite, évidemment, on va prendre le temps de faire un point sur l'actualité avec Gaspard et on vous propose le premier sujet, les voitures d'occasion, les ventes explosent depuis le début de l'année 2020. Est-ce que vous trouvez ça, vous, logique? Est-ce que c'est dû à cause des malus? Est-ce que patati et patala?
Est-ce qu'on se détourne du neuf?
Voilà.
Est-ce que vous avez plus les sous pour acheter une voiture neuve? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites que c'est le bon moyen de la changer avec des occasions neuves parce qu'il y a des bons diesels pas trop chers sur le marché de l'occasion? C'est peut-être le moment.
Eh bien, on en parle en détail avec notre invité dans quelques instants, mais tout de suite, allez, on va faire un point sur l'actualité de la semaine avec vous, Gaspard.
La mise en place de la limite générale européenne à 95 grammes kilomètres de CO2 pour l'automobile en 2021 devrait coûter cher à certains constructeurs dans les mois à venir. La grande étude du cabinet d'analyse britannique PA Consulting sur les rejets de CO2 de l'industrie auto est alarmiste. Elle montre que la grande majorité des constructeurs présents en Europe sont très en retard sur leurs objectifs de 2021. Fiat, Mazda, Honda ou encore Ford ne seront pas dans les temps. Pas étonnant lorsque l'on sait que ce sont pour certains des constructeurs qui ont fait l'impasse sur l'hybridation rechargeable et l'électrique. Au total, l'industrie auto pourrait payer près de 14 milliards d'euros d'amende l'année prochaine. Le grand débat sur la mobilité concoctée à Paris mercredi dernier n'a pas tenu toutes ses promesses. Les trois principaux candidats aux élections municipales, Anne Hidalgo, la maire de Paris, la candidate LR Rachida Dati et l'ex-candidat Benjamin Griveaux, qui a connu quelques turbulences depuis, ont préféré y envoyer leur second couteau sur les six candidats attendus. Seuls Cédric Villani et Gaspard Ganzer ont répondu à l'appel en personne. Et sur le fond, tout le monde est à peu près d'accord, tous y compris Rachida Dati, qui se présente comme la moins opposée à la circulation automobile. Ils ont à appelez à une réduction de la place accordée à la voiture et au développement de l'électrique pour remplacer le thermique. Tous ont déploré des transports en commun saturés et tous veulent planter des arbres et rendre la capitale plus verte. En gros, l'idée est bien de continuer à lutter contre le véhicule individuel et de développer à la place l'autopartage et le covoiturage en faveur de l'environnement. De temps en temps, un accident peut être une bonne nouvelle. Au volant de sa voiture, Ignacio Fernandez, habitant de Madrid, s'apprête à aborder un rond-point quand il se fait brusquement percuter par l'arrière par une Audi RS3. Il descend énervé pour constater les dégâts sur son véhicule et demander des comptes au chauffard qui l'a embouti. Une colère qui descend d'un coup quand il se rend compte que ce chauffard n'est d'autre que Zinedine Zidane. Les deux hommes conviennent de s'occuper de la paperasse ultérieurement par téléphone. Mais avant de partir, Ignacio en a profité pour immortaliser cet instant pour le moins insolite avec un selfie avec le champion du monde français.
Allez, merci beaucoup Gaspard. À suivre dans notre rendez-vous, on va parler des voitures d'occasion. Les ventes explosent. Pourquoi, comment? Et vous, si vous devez acheter une voiture demain, vous achèteriez plutôt une voiture neuve, une voiture d'occasion, on va dire à budget égal? Venez nous rejoindre pour nous donner votre avis. 0826 300 300.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Quelle voiture allez-vous acheter prochainement? Voiture d'occasion, voiture neuve, voiture en... Voilà, c'est vous
une
qui décidez.
Fuego.
Non, mais oui, ou alors vous, c'est une Fiat Multipla. On va parler des voitures d'occasion parce que les ventes de voitures d'occasion explosent depuis quelques semaines et on en parle avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il s'agit de notre ami François Roudier. Bonjour, directeur.
Bonjour. Voilà, après la Saint-Valentin, Saint-Christophe, le patron de l'automobiliste.
C'est
heureux.
Vrai. Mais voilà. Oui, c'est vrai. En plus, hier c'était la Saint-Valentin et ouais, aujourd'hui c'est la Saint-Christophe. Moi, bravo, j'ai pas fait le lien.
Moi, j'ai plein de belles questions à poser à François. C'est vrai que c'est la Saint-Christophe.
Oui. Et ouais. J'en profite pour embrasser mes potes qui s'appellent Christophe.
Amitié à Christophe qu'on connaît pas.
On est si, moi, si veut nous appeler.
En ce moment, si tu veux, Laurence, dans le marché, il se passe quelque chose d'assez étrange depuis quelques années. C'est que le marché de l'occasion est en train vraiment, et le mot est juste, il explose. On vend énormément de voitures d'occasion en France. En gros, c'est 6 millions par an, François Roudier.
Oui, 5 millions 7 l'année dernière.
Voilà. Wow. Et puis, il y a un autre concept. C'est qu'en France, tu peux choisir à budget égal une voiture d'occasion qui va être comparable en termes de coût avec une voiture qu'on appelle low cost. Je prends l'exemple, admettons que vous avez besoin d'un SUV. Vous avez des SUV qui sont sur le marché de l'occasion aux alentours de 15-20 000 euros. Eh bien, il faut savoir que pour le même prix, vous pouvez avoir le Dacia Duster qui se situe à peu près, c'est combien à peu près?
Oh, c'est 10 900 euros, mais la valeur moyenne, c'est 16 000 euros.
Oui, mais en neuf,
voilà, la comparaison en neuf. Mais c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on a... On a ce point-là. Est-ce qu'on va vers le neuf? Est-ce qu'on va vers l'occasion? Mais on a un petit problème de taille. Il s'appelle le malus automobile. Je mets 20 000 euros dans une voiture d'occasion. Pas de malus. Je mets 20 000 euros dans une voiture neuve. Malus. Est-ce qu'on n'est pas, François, en train de marcher sur la tête quand on dit en même temps qu'il faut rajeunir le parc auto, qui vieillit de plus en plus, on a passé les 10 ans de moyenne d'âge. D'un côté, on dit qu'il faut rajeunir le parc auto. Et d'un autre côté, on met une entrave à l'achat du véhicule neuf. C'est quand même étrange.
Alors c'est complexe. C'est complexe parce qu'en fait, lorsqu'on parle de véhicules d'occasion, il faut voir, et même de l'âge moyen du véhicule, il faut voir qu'on a vraiment des extrêmes. Vous avez la grande majorité des véhicules qu'on retrouve dans le parc automobile sont des véhicules très anciens, des fois plus de 15 ans d'âge. Et puis vous avez tous ces véhicules qu'achètent les Français justement pour éviter le malus ou parce que il y a un bon rabais en fait par rapport à un véhicule neuf, qui sont des véhicules qui ont 3 ans voire 2 ans d'âge, pas plus.
Donc là, perso, je vous dire franchement, j'appelle ça du neuf quand elle a 2 ans,
mais
parce que
ça
l'époque
dépend du kilométrage.
Mais ça dépend du kilométrage et d'entretien.
Honnêtement, il y a encore quelques années, il y avait cette fameuse barrière symbolique du 100 000, où on disait bon, une bagnole n'a pas de problème, mais à partir de 100 000, c'est là que ça commence. Franchement, aujourd'hui, les voitures sont quand même globalement plus fiables,
sauf la mienne. Allez, prends ça. Moi, ça a commencé plus tôt.
Mais si t'as raison. Je t'avais dit de pas acheter une voiture électrique.
Globalement plus fiable. Non, c'est pas une voiture électrique. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qu'on disait avec François, c'est que si ta voiture d'occasion, si ta voiture en 2 ans, elle a déjà fait 50 000 km, c'est pas la même qu'une voiture qui en a fait que 10 000.
Oui, ça c'est. Voilà, et puis l'entretien. Mais on a un déplacement de la clientèle du particulier sur les véhicules. Hein, et comme vous l'avez bien dit, il faut arrêter de croire que les Français n'achètent plus de voitures. D'ailleurs, on voit que le parc automobile augmente.
On sait combien on a de voitures neuves ?
Sur le parc automobile français, on a plus de 51 millions de voitures, c'est ça ?
Non, 39 millions.
39.
Et le nombre de voitures, et ça c'est le nombre de voitures assurées qui circulent.
Qui sont en fait une très bonne estimation. Avant c'était estimé, maintenant c'est calculé, c'est-à-dire qu'on calcule la carte grise et puis le passage en contrôle technique.
C'est ça.
Donc c'est 39 millions de voitures qui roulent.
D'accord. Ça c'est qui roule. Et la possession des Français dépasse les 51 millions.
Voilà, alors attention, d'accord, parce que ça c'est les chiffres du ministère des Transports, qui a beaucoup de cartes grises, de véhicules qui n'existent plus, qui n'ont pas été rayés, qui n'ont pas été détruits, ou qui sont partis dans des pays lointains.
Le prorata voiture neuve, voiture d'occasion sur le parc français.
Alors, on met dans le parc français tous les ans de plus de 2 millions de voitures neuves.
D'accord, donc, toutes marques confondues.
Voilà, toutes marques confondues. Il y a 2 millions de voitures qui arrivent et qui font remplacer un parc. Donc vous voyez, bah vous divisez 39 par 2 et vous voyez en combien de temps le parc se modernise. C'est pas mal, hein,
ouais, c'est pas mal.
Ce qui fait que dans les années de crise, où on est tombé à 1,7 million et 1,6 million de voitures, c'est dramatique parce que immédiatement ça provoque un vieillissement du parc.
Alors là, on l'a ce vieillissement du parc. À quoi on l'attribue ?
Alors on l'attribue à la fracture sociale qu'on connaît dans la France entière. Hein. Vous avez une classe moyenne qui s'appauvrit et plus de pauvres, et puis finalement une classe moyenne qui s'est enrichie. Donc vous avez un système où vous avez, moi je connais bien la situation dans l'Allier où je vis, où à côté d'un flambant 3008 GT Line tout neuf, vous aurez une R19 des bleus, parce que le gars... vit avec.
Voilà. Non mais attends,
il n'y a plus rien au milieu. Ça c'est très problématique.
Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de juste milieu pour le coup.
Je vais prendre la petite voiture de ma chérie, on l'a gardée parce qu'elle est très bien cette voiture. Et d'ailleurs, François, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit « Ouais, mais cette voiture, elle est increvable ». Une Renault Clio essence, première motorisation, 1999. On avait regardé pour toucher la prime à la conversion en se disant... Et puis on nous a dit, ah ben non, parce qu'elle est de 99, il aurait fallu qu'elle soit d'avant 97. Donc du coup, on n'a rien touché, on s'est dit, ma foi, on va la garder, la petite Clio. Eh bien, elle a 220, 230 000 au compteur, elle est impeccable.
Question pour revenir sur pourquoi ça explose aujourd'hui. Est-ce que c'est, un, une histoire d'argent ? Est-ce que c'est, deux, parce que les gens ont eu peur du malus ? Est-ce que c'est parce que les concessionnaires ont pris de la distance avec tout ça, ils ont organisé. Est-ce que c'est parce que en fait le WLTP est repoussé à l'été ? Donc le fameux gros malus qu'on nous annonçait avec des sommes énormes est repoussé encore de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Le pourquoi du comment de la chose ?
C'est vraiment la première proposition que vous avez donnée. C'est-à-dire que on a un appauvrissement des ménages français. C'est ce qui fait que cette tendance, elle n'est pas que de l'année dernière, hein. On la voit déjà depuis longtemps, vers la nécessité d'avoir un véhicule, hein. 93% du parc automobile est tenu par les ménages. Donc, on a besoin d'un véhicule pour une utilisation très souvent ce qu'on appelle contraint, c'est-à-dire que c'est pas forcément par plaisir, je vais me faire des ennemis de mes amis du marketing, mais très souvent on a une voiture parce qu'on en a vraiment besoin. Et ce besoin-là, on essaye de l'avoir au meilleur coût possible. Donc on va chercher toutes les occasions possibles, plutôt que de demander des remises sur du neuf que vous n'aurez pas.
Moi je vais vous dire, je pense qu'au départ, la première voiture, notre première voiture, elle a une valeur qui s'appelle liberté. On a tous été associés à cela. La première voiture qu'on possède, on se dit waouh, ça y est, je peux faire ce que je veux, aller où je veux, quand je veux. Et ensuite, il y a l'automobile un peu pratique. Quand on n'a pas les moyens, celle que tu vas appeler l'automobile un peu contrainte, c'est-à-dire j'ai besoin d'aller bosser, j'ai besoin d'aller chercher mes gamins à l'école, etc. Et là, on est dans cette notion. Et puis ensuite, il y a différentes périodes de l'année. Il y a la période vacances. Et là, cette automobile redevient vecteur de plaisir. Et puis, il y a la réussite, entre guillemets, parce qu'on me dit toujours, oui, la voiture n'est plus le symbole de la réussite sociale. Ah bon ? Eh ben pourtant, moi, je vois rarement des gens multimillionnaires se trimballer une voiture, une vieille guimbarde à moitié pourrie. Et inversement, moi, je peux vous dire que quand vous arrivez à cette notion du véhicule plaisir, le jour où vous franchissez la porte d'une concession automobile en vous disant « Bah tiens, je vais la choisir. » Et puis, elle sentira le neuf. Et je vais choisir la couleur. Puis tiens, je vais choisir qu'il y a le type d'autoradio GPS, je vais mettre dedans. Je vais choisir mes options, le toit ouvrant ou pas.
Autoradio, chouchou.
Ce jour-là, ouais, un autoradio. Ouais, on appelle ça encore comme ça, non ?
Avec
non,
des cassettes, avec des... TDK.
Mais non, ça c'est un radio gazette.
Un
autoradio. Et non, mais quand tu arrives à ça, Laurence, eh bien ce jour-là, l'automobile redevient le symbole du plaisir. Le jour où tu montes dans ta voiture et que tu te dis waouh, je prends du plaisir, eh bien ce jour-là, je pense que c'est que tu as quand même évacué déjà pas mal de soucis dans ta vie, quoi.
Ouais, alors les dernières études le montrent, les Français sont toujours vraiment attachés à leur voiture. Deux choses que vous avez dites par rapport à ce que vous expliquiez, monsieur Roudier. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication du CCFA, Comité des constructeurs français d'automobiles. Vous avez dit, on va plutôt aller vers une occasion parce que de toute façon, on n'aura pas le temps d'aller, enfin, on n'aura pas l'occasion d'aller vers une neuve parce qu'on n'aura pas la remise attendue. Ça veut dire qu'en neuf, les concessionnaires ne peuvent plus faire de remise, n'en font plus ?
Oui, parce que vous avez une politique, alors qu'on appelle en termes barbares le pricing, c'est-à-dire qu'on essaye de vendre à un prix où on va quand même avoir une marge. Donc,
énorme que ça auprès des concessionnaires.
Si énorme que ça.
On a
exactement,
fait une émission dessus, on est voilà, sur même pas 1000 euros la voiture.
Exactement, hein. Donc vous avez cette pression qui est mise sur le vendeur, donc il doit vendre des voitures neuves au bon prix. À côté de ça, l'occasion permet justement de faire une bonne remise. Parce que la voiture a décoté un petit peu. Et puis après, c'est très compliqué en finance parce que c'est de la gestion de stock. Finalement, des fois, vous avez 10 voitures sur le parking. Vous avez intérêt à les brader parce que sinon, elles vont vous coûter trop cher à rester sur le parking. Donc tout ça, après ça, ça se joue très bien dans les concessions et par les constructeurs. Et c'est ce qui fait que lorsque vous regardez autour de vous, demandez aux gens qui achètent des voitures, très souvent, on va vous dire « Ah, j'ai eu une très bonne occasion. » On va rarement vous dire « Ah, bah, j'ai acheté une voiture neuve ». Alors, quelques personnes le font, heureusement, sinon on ne vendrait pas nos 2 millions de voitures par an.
Il y a un point que je voudrais qu'on aborde aussi. Dans les médias, on l'a beaucoup lu, mais on lit tellement de bêtises parfois. On nous dit « Regardez, les ventes de neuf s'écroulent en janvier, alors que les ventes d'occasion montent. » Et moi, de mon côté, je dis « Attention, vous faites une erreur. L'occasion monte, c'est vrai, mais peut-être que les ventes qui vont se faire sur janvier sont en fait des véhicules qui ont déjà été immatriculés en décembre 2019 pour échapper au malus auto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que c'est pas simple pour ceux qui sont au courant, c'est facile, pour ceux qui connaissent pas.
C'est pas simple. C'est-à-dire que vous aviez un changement de malus à partir de janvier. Donc, vous aviez
qui du coup maintenant vient d'être reporté en juillet.
Voilà, alors donc ça bouge, voilà, ouais, c'est
mais
toujours
avant,
complexe.
Avant, on pensait que c'était janvier.
Voilà, ouais, et ce malus donc a permis pour les constructeurs d'immatriculer, de forcer vite les ventes de voitures qui allaient être surtaxées en janvier. Hein, donc on a eu un trou dans certaines marques, les marques qui mettaient le plus de CO2 d'ailleurs, ont surperformé en décembre et sous-performé en janvier. Ça va progressivement s'équilibrer. Hein. Et vous aviez aussi un autre effet, on en a déjà parlé, vous avez eu une immatriculation de véhicules électrifiés, c'est-à-dire soit des électriques, soit des hybrides rechargeables, massive en janvier, parce que ça va compter dans la moyenne CO2 européenne de chaque constructeur pour éviter de payer une amende s'il dépasse les 95 grammes de CO2. Donc, c'est ces deux phénomènes qui ont un petit peu faussé le marché.
Alors, on va revenir évidemment sur ce sujet du marché de l'occasion qui explose dans quelques instants avec vous, François Roudier, directeur de la communication, je rappelle, du CCFA, c'est le Comité des constructeurs français d'automobiles. J'ai plein de questions à vous poser, Pierre aussi, donc vous n'hésitez pas et vous nous rejoignez au 0826 300 300 pour participer à cela. Le marché de l'occasion explose, on essaye d'expliquer pourquoi et c'est sur Sud Radio aujourd'hui. À tout de suite.
Sud Radio, ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et nous continuons d'évoquer ce marché de la voiture d'occasion qui explose dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les ventes sont
explosion dans le bon sens du terme.
Mais non, c'est parce que hors antenne, on va raconter ça à nos amis. Ouais. Je commence à dire, bon, alors on recommence à reparler du marché de l'explosion. Et là, évidemment, mes deux compères, notre invité François Roudier et Pierre Chasseret, sont morts de rire. Avec vous, François Roudier, directeur de la communication du CCFA, Comité des constructeurs français automobiles. Question juste, mais alors très basique. Est-ce que le marché de l'explosion, de toute façon...
Elle l'a fait.
Ah, ben voilà, ça y est, je l'ai fait. Est-ce que le marché de la voiture d'occasion... Ben oui, ça y est, je l'ai en tête.
Bon, on parle du moteur à explosion.
Ouais, voilà, aussi, en même
boom,
temps.
Boum, boum, quand votre cœur fait boum.
Ben non, j'aimerais bien qu'il refasse boum, mon cœur. Est-ce que ce fameux marché de l'occasion n'est pas dû aussi à ce qu'on dit tout le temps? C'est-à-dire, quand j'achète une voiture neuve, à partir du moment où je fais le premier kilomètre avec elle, elle perd 25% de sa valeur. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai, on a cette vision. Le consommateur est très rationnel. Attendez, il faut arrêter de traiter les automobilistes comme des abrutis, ce qu'on entend par certains
parents. Merci, parce que je suis censé être le porte-parole, donc
non,
ça me fait plaisir.
Je ne pense pas à vous, monsieur Chasseret, mais on a l'impression que les Français utilisent des voitures de façon totalement irrationnelle. C'est complètement faux. Le consommateur, il nous met une pression terrible, nous constructeurs, parce que il regarde les prix, il regarde la valeur de la voiture, il passe sur sur des solutions de location longue durée qu'il a maintenant dans l'occasion aussi. Donc il gère son budget très très bien et il gère sa mobilité très bien.
Moi aussi, je vais être hyper pragmatique, je vais faire du Laurence Perrault. quand on est constructeur,
c'est-à-dire que tu vas exploser.
Le marché de l'occasion, il vaut mieux vendre une voiture d'occasion quand on est concessionnaire ou vendre une voiture neuve?
Bah, les deux, mon général.
Super,
justement, vous avez un retour des constructeurs dans l'occasion qui est assez impressionnant parce que derrière tout cela, vous avez quand même cette idée de fidélisation du client. C'est un bon moyen aussi de tenir, d'être capable d'offrir à un client qui est dans une concession tout, de la voiture neuve très chère jusqu'à la voiture d'occasion bien, pas trop chère et qui est certifiée par le constructeur. On s'engage, nous, vous prenez toutes les garanties, les Lyon, les Renault Or, etc. Vous avez tout ça et tout ça engage le constructeur. Donc ça rassure le consommateur. Mmh. Et puis derrière, un consommateur heureux sur une voiture d'occasion, il sera peut-être l'acheteur d'une voiture neuve plus tard.
On est quand même obligé d'en toucher un mot. C'est vrai, oui. Quand on achète une occasion, Laurence, oui. Il y a la fameuse garantie concessionnaire, si on l'achète en concession, qu'on n'a pas si on passe par exemple par le Bon Coin. Est-ce que c'est encore un argument pour vous, pour séduire l'acheteur, de dire, mais ici quand même, vous êtes en sécurité, la voiture a été vérifiée. D'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment vérifiée?
Ah oui, parce que attention, vous engagez quand même la responsabilité de la concession. Après, tout dépend du type de véhicule. Hein. Nous, on est surtout sur les véhicules très récents. Hein, des véhicules qui c'est reviennent ça. D'entreprise, donc des véhicules qui ont 3 ans, voire 5 ans maximum. Après, l'autre marché, il passe essentiellement de particulier à particulier. Hein, la majeure partie de l'occasion, c'est de particulier à particulier.
Est-ce que dans les ventes d'occasion aujourd'hui que vous avez repérées, Monsieur François Roudier, il y a plus de voitures françaises qui sont vendues d'occasion ou ça n'a strictement pas de lien? C'est un peu toutes les marques confondues aussi.
Je crois
que le français...
C'est une sur deux. Hein.
On sait que le français...
Il y a un effet statistique.
Le français, quand même...
C'est le neuf qui se cale à peu près sur l'occasion.
Voilà,
attention.
J'ai des chiffres sur les Français qui préfèrent quand même à plus de 50% acheter une voiture française.
Ouais, c'est grosso modo, ça, c'est un sur deux. Okay. Une voiture sur deux du parc auto est française.
Neuve ou d'occasion.
Ouais, quand j'étais petit, tu sais à quoi je jouais dans la voiture avec mes parents? On jouait sur la route, ça m'occupait comme ça, je commence à comprendre maintenant. Ouais, on misait sur une voiture
c'est
et
ça.
Puis à la fin du trajet, c'était celui qu'on avait vu le plus qui avait gagné. Donc je faisais ça et puis mes parents, ils voulaient toujours me laisser gagner, dont ils prenaient une marque improbable. Et moi, je voulais toujours à l'époque que ce soit la marque que j'aimais qui gagne. Alors, comme j'ai un amour
Ferrari,
et une passion.
C'est compliqué, non?
Ouais, mais mon amour et ma passion, moi, c'était Honda ou Mercedes. Alors, autant te dire que je perdais souvent la partie quand même, quoi.
Aujourd'hui, le marché de l'occasion, vous le voyez comment auprès des constructeurs français? L'avenir,
c'est quoi les grandes tendances? Hein, c'est une vraie tendance et on le voit très bien, surtout avec cet impact des achats d'entreprises qui arrivent très vite après dans l'occasion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que avant, souvenez-vous, l'achat d'entreprise, la voiture, il y avait quasiment l'option volant, c'était tout, c'était minable. Là, maintenant, on a des voitures en entreprise qui sont très équipées, donc qui arrivent après sur l'occasion et qui sont très séduisantes. Donc tout ça permet une bonne rentabilité
globale. J'imagine quand même qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais môme, peut-être un peu plus quand même, on va dire une trentaine d'années, le rétroviseur côté passager était optionnel. C'était quand même extraordinaire. C'est-à-dire quand on te vendait une voiture, on disait, elle a deux rétros.
Wow. Alors, on parle du marché de l'occasion.
L'auto a changé, quand même.
Avec vous, auprès des constructeurs et auprès des concessionnaires, il y a aussi, comme vous le disiez, le marché de l'occasion auprès des propriétaires particuliers. Il y a aussi maintenant une nouvelle offre qui se passe sur Internet. On en parlera d'ailleurs dans notre rendez-vous avec vendezvotrevoiture.fr. C'est un marché qui prouve en tout cas que la voiture se porte toujours aussi bien, François Roudier.
Oui, mais bien sûr, il faut arrêter les délires décroissants de certains. On est sur un marché en France qui est très porteur parce que la géographie de la France favorise la voiture. Et regardez comment l'étalement urbain qu'on a connu, tous les endroits qui étaient des champs maintenant ont des zones pavillonnaires parce que les gens n'ont plus forcément envie de vivre dans 40 mètres carrés avec 5 enfants, ils ont besoin d'espace. Je sais que certains veulent les faire revenir dans de l'habitat urbain comme ça, c'est terminé. Donc vous avez besoin d'avoir une voiture. Alors cette voiture, vous allez l'utiliser d'une façon finalement assez logique pour votre vie. Vous allez au travail avec, vous allez vous faire plaisir, vous allez faire des courses, vous allez chez les médecins.
Eh oui.
La disparition de tous les services publics dans les campagnes allonge les distances en véhicule.
Et j'ai entendu encore plus fort, là, cette semaine, la suppression des distributeurs de billets de banque. C'est-à-dire on perd les ponts, un pont chaque jour en France, vous me connaissez, je dis toujours cette statistique, mais on perd 3 guichets distributeurs d'argent en France, et c'est pas dans les grandes villes, hein, c'est dans les petites communes, parce que ça coûte trop cher pour les banques, comme si on n'en lâchait pas assez. Donc au final, comment on fait pour prendre de l'argent liquide? Parce qu'il reste la boulangerie, il reste le bistrot, mais il n'y a pas pour chercher l'argent. Donc, pour acheter un pain au chocolat à son gamin, on ne va peut-être pas le payer en sans contact.
Ça n'est pas où tu habites, hein. Sud-Ouest, c'est chocolatine.
C'est plutôt chocolatine.
Voilà. Prenons un croissant, alors comme ça, on fera l'unanimité. Et tu rajoutes une barre de chocolat dedans. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que maintenant, même pour aller chercher de l'argent, on a besoin d'une voiture. Donc, il y a 2 discours qui s'opposent, en fait. Il y a un discours qui est un discours politique qui prône ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent eux-mêmes, creuser dans les partis politiques. Vous allez voir ce qu'ils proposent. La redensification urbaine, c'est les mots. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des tours, on cale les gens dedans et on te dit voilà, t'es bien parce que t'es à 500 mètres de ton boulot. Maintenant, sois heureux, tu peux vendre ta bagnole. Waouh, ça fait rêver. Et puis, il y a le pragmatisme, il y a ceux qui se disent un jour, j'aimerais vivre près de la mer. Un jour, j'aimerais vivre à la campagne. Un jour, je sais pas où je veux vivre, mais je voudrais juste un jardin pour jouer avec mes gamins au ballon. Voilà. Et ça, c'est une autre réalité. Cette réalité-là, elle a besoin d'une voiture.
Et puis surtout, on n'oublie pas que même en France, on a une des zones qui est en centre France, un peu plus du côté de la Corrèze, un peu dégagée par là-bas, qui est l'une des régions les moins peuplées d'Europe. Donc si t'as pas ta voiture, mon gars, le premier hypermarché, il est à 45 minutes de certains villages. Si t'as pas ta voiture, à part avoir ton potager, élever tes
12 poules... 12 minutes pour François Roudier, hein, parce que...
Revenons à notre marché de l'occasion, François Roudier, vous qui êtes directeur de la communication du Comité des constructeurs français d'automobiles. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Par exemple, moi, ma voiture, je vais la vendre à une concession pour en acheter une autre. Elle va donc passer dans le marché de l'occasion. Qu'est-ce qu'elle devient? Puisque la mienne a un peu 100 000 bornes. Elle va pas être vendue, elle va pas être proposée sur le marché de l'occasion basique.
Alors attention, parce que l'occasion, l'occasion, elle peut aussi partir à l'étranger.
Voilà.
Hein, et d'ailleurs, l'occasion, elle peut venir de l'étranger aussi. Hein, le marché, le parc d'occasion, et pas forcément une voiture neuve qui a été vendue en France.
Alors ça, on en parlera.
Il y a tout un système. C'est ce qui devient un peu inquiétant vis-à-vis de certains vieux véhicules diesel qui sont rejetés des grandes villes et qui en fait sont repoussés vers des marchés au-delà
Africains,
de la Méditerranée, voilà,
ou des pays de l'Est
et qui en fait, moins. Et le problème, c'est que ça peut casser ces marchés-là qui pourtant nécessitent d'avoir des véhicules modernes. Hein, les taux de mortalité dans ces pays-là sont essentiellement dus à des mauvaises routes et à des vieux véhicules. Donc là, finalement...
Ah bon, c'est pas le 80 km/h.
En Afrique,
déjà, 80 km sur certaines pistes, c'est déjà énorme.
C'est déjà, c'est
voilà.
Ça.
Mais voilà, donc, en sauvant des populations bobos dans certaines villes, on va en tuer d'autres dans des pays avec des véhicules d'occasion invendables sur nos marchés.
Alors attention, parce que nous en France, vous savez, à l'époque, il y avait les compteurs kilométriques trafiqués. Chacun sa méthode. Hein. C'était pas très compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le compteur kilométrique qui est numérique, alors il est pas falsifiable pour toi et moi, Lolo. Hein. Nous, on n'est pas assez bon pour faire ça. Mais pour quelqu'un qui est bon en informatique et qui a juste de quoi se connecter à la prise OBD et la prise électronique du véhicule, il se régale. Ça veut dire que, par exemple, vous avez des pays où le sport national, nous en France c'est le foot dans la cour de récréation, là-bas, limite, on vous apprend déjà à trafiquer le compteur auto. Prenez l'exemple de l'Allemagne, le pays de l'automobile. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'Allemagne elle-même considère que 40% des compteurs sur le marché du véhicule d'occasion sont trafiqués. Et là, on a un vrai problème. Parce que lorsque vous achetez, soi-disant, la bonne affaire en Allemagne. Vous allez en Allemagne, vous faites la bonne affaire, vous dites ma bagnole, oh, super, j'ai acheté une allemande, donc c'est robuste, c'est solide, parce que toute l'image des allemandes qui sont hyper fiables, etc.
Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas faux, ça dépend du prix que vous mettez dans la voiture. Quand vous mettez 75 000 euros dans une voiture, encore heureux qu'elle tient la route un peu plus de 6 mois. Quoi. Donc vous achetez votre voiture en Allemagne.
C'est pareil pour la France. François, il est mort de
Vous revenez avec votre voiture, vous êtes content, vous la montrez à tout le monde, regarde, elle a 100 000 bornes, le volant il est un peu abîmé, la boîte de vitesse un petit peu, il manque un peu de cuir, c'est tout. Sinon, elle n'a rien. Et en fait, le jour où vous la portez chez votre concessionnaire, il vous dit, mais monsieur, elle n'a pas 100 000 votre voiture. Elle est rincée. Elle est rincée, ça devait être une voiture de taxi allemand. Parce que là-bas, eh bien, c'est vraiment ça. Vous avez des grands marchés. Vous arrivez sur le marché dans certaines villes, et puis sur ce grand marché, nous ici on vend des carottes, des poireaux, des pommes de terre, là-bas on vend des voitures. Vous venez, vous avez vos bifetons dans la poche, vous regardez une voiture, elle vous plaît, vous partez avec. Évidemment, j'ai un petit peu caricaturé François, mais c'est un peu ça.
Ah oui, n'achetez jamais une Mercedes beige, c'est un ancien taxi en Allemagne. Hein.
Voilà.
Donc, non, il y a effectivement des trafics sur les voitures haut de gamme, il faut être très prudent, parce que là, vous avez des mafias qui sont spécialisées dans ces trafics de voitures. Vous avez même, on peut le citer en anecdote, mais c'est ahurissant, des fausses Ferrari d'occasion, hein, qui n'avaient absolument rien d'une Ferrari et qui ont été refaites à partir d'une
c'était
base.
C'était voilà. Une Fiat Multipla. Donc,
voilà, mais moi, je suis vraiment naïve.
Qui a viré
fait.
Sa cutie. Voilà. Donc, on a des... Non, il faut faire attention à l'escroquerie.
Ils ont pris une Renault Fuego, ils l'ont pas en rouge et hop.
Voilà. Non, c'est pour ça qu'avoir des systèmes, soit constructeurs, soit des sociétés qui aident,
oui, qui
Internet, tout ça, c'est quand même important, parce que aller acheter sa voiture derrière le parking Intermarché à Momo, avec du cash, attention, là on entre dans la zone rouge.
Et c'est pour ça que les sites Internet qui s'occupent de vente de voitures d'occasion ont de plus en plus des agences en dur, enfin avec des pas de porte, pour également rassurer tout simplement.
Bah, donc c'est les professionnels, tout problème du professionnel va venir d'une erreur. Une erreur, un client insatisfait, c'est un mauvais ambassadeur, c'est terrible. C'est pire que si vous avez dit bons ambassadeurs qui poussent vos voitures. Donc tout le monde fait très attention et pour le client, c'est une garantie de sérieux.
En 2019, on a eu 5,790 millions de véhicules d'occasion vendus dans l'Hexagone. C'est le plus fort cumul jamais connu en France, et c'est pour ça qu'on en parlait. Il y a une voiture qui sort du lot, c'est-à-dire on a un top 10 de la voiture d'occasion dans les voitures françaises, vous, monsieur François Roudier.
Oui, on est assez proche du top 10 des voitures neuves vendues, hein, parce que comme vous avez des voitures qui arrivent massivement de flottes d'entreprises, on reste sur les traditionnels de 207, 208, Clio 1, 2, 3, 4, 5 maintenant, et on a aussi une grosse arrivée de Dacia, hein, Dacia,
c'est une histoire d'argent,
c'est très intéressant, le Duster a une bonne valeur d'occasion parce que il est très utilisé dans les campagnes
et fiable. Et en plus, il a une image de fiabilité associée.
Voilà. Et puis il permet de tracter quelque chose, parce que l'écologie dans les campagnes, c'est aller à la déchetterie, et à la déchetterie, on a besoin soit d'avoir une benne, soit d'avoir une voiture. Donc c'est un effet de l'écologie sur les ventes de voitures.
J'ai une question, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on est simple particulier comme moi, quand j'achète une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, pour la revente? À quoi je dois faire très attention? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des voitures qui, quoi qu'il en soit, vont mieux se revendre?
Exemple, il y a des voitures qui décotent plus vite, effectivement.
Exemple, la 208, qui est absolument magnifique, la nouvelle qui est sortie là, fin 2019. Si j'ai acheté, moi, ma 208 d'avant, en juin, elle va décoter très fort parce que les gens seront plus attirés par la nouvelle 208. Est-ce que ça, par exemple, faut y faire attention?
Ça peut se faire, mais il faut bien surveiller les modèles, hein, parce que vous avez des modèles d'ancienne génération qui gardent une très bonne cote parce qu'ils vont avoir une fiabilité exceptionnelle. Je parlais des Dusters, les Dusters ancienne génération, ils gardent une très bonne cote. Donc ça dépend, mais il faut bien regarder sur les magazines et sur Internet ce qui va. Une voiture qui est réputée voiture à problème ou qui casse certains équipements, là va perdre beaucoup, parce que vous avez une accumulation du bad buzz sur ce véhicule.
Merci beaucoup François Roudier, qui était notre invité ce matin pour nous parler de ces ventes d'occasion qui ont explosé en France. Près de 5,8 millions de véhicules d'occasion vendus en 2019. C'est vrai que c'est énorme. Et puis on continue évidemment sur la même lancée, parce que janvier, ça continue d'augmenter. On se retrouve très bientôt dans un autre rendez-vous.
Très bientôt.
Monsieur François Roudier, comme ce
dit
soir.
Le
par
boss
exemple,
uniquement dit le boss. Sur Sud Radio dans Ça Roule.
Allez, dans quelques instants, on va recevoir Alexandre Marin, qui est le directeur général France de VendezVotreVoiture.fr. On vient de parler de la voiture d'occasion. Il va nous donner l'occasion, d'ailleurs, lui, de le faire à travers ce site internet qu'on voulait mettre en avant également. Pratique, fiable. On vous explique tout dans quelques instants.
Sud Radio.
Sud Radio.
Ça roule.
Ça roule. Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et on en a parlé il y a de cela quelques instants, des ventes de voitures d'occasion. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et continuer avec notre invité Alexandre Marin. Bonjour Alexandre.
Bonjour Laurence.
Monsieur le directeur de VendezVotreVoiture.fr, ça va ?
Ça va très bien.
Bon, au moins votre pub, on la connaît. Hein. Je crois que celui qui est passé à côté.
Oui, c'est vrai.
Je vois encore les pouces comme ça, avec la voix qui fait « Vendez votre voiture !» Un truc comme ça, c'est ça? Je suis pas trop loin.
Bah écoutez, c'est exactement ça. C'est une pub qui marque les esprits. C'est une pub que les gens retiennent. Mmh. Mes amis m'en parlent et de manière générale, les Français commencent à connaître cette marque qui est assez jeune parce qu'on s'est lancé en France il y a 5 ans.
Ouais, c'est ça.
J'ai fondé la filiale française de VendezVotreVoiture.fr qui est en fait
un énorme groupe.
Qui est le groupe Auto One, enfin un énorme groupe qui est une start-up qui est née il y a 7 ans. Donc on est assez jeune et on s'est développé dans toute l'Europe de manière assez rapide. Et voilà.
Et Auto One, un mot déjà sur Auto One, ce grand groupe qui est vraiment tourné autour de la voiture, quoi.
Exactement. On est aujourd'hui le leader européen de l'achat-vente du véhicule d'occasion. Donc on a développé en propre un réseau de plus de 400 agences qu'on opère, où ce sont nos employés partout en Europe, dont 80 en France, donc sous le nom VendezVotreVoiture.fr, qui nous permet en fait de racheter des véhicules. Très rapidement à des particuliers.
Voilà, alors c'est ça, voilà, parce qu'il faut, il faut.
C'est ça. Bah là, on rentre dans
Il y a une promesse, et ensuite évidemment cette promesse, elle est compensée. Il y a aussi quelque chose derrière. Alors la promesse, c'est j'ai une voiture, j'ai besoin de cash, j'ai besoin de la vendre, j'ai besoin de m'en détacher rapidement parce que je suis parti sur un autre projet et voilà, et que j'ai ce besoin rapide de vendre du véhicule. Vous assurez ça, c'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, on vous fait votre quasiment le prix de vente en
illico.
En gros,
ça marche comment, quoi?
Oui, alors. Donc,
Si je veux vendre ma voiture, hein, c'est la question de Pierre. Ça. Je suis d'abord vendeur. Comment ça marche?
Vous êtes vendeur de votre véhicule, vous allez sur le site internet VendezVotreVoiture.fr, vous faites une estimation en ligne avec 4-5 clics, et là on vous donne un prix estimatif théorique du véhicule en fonction de l'âge, du kilométrage, du modèle et de quelques questions succinctes sur le véhicule. Mmh. Si le prix peut vous intéresser, vous prenez rendez-vous dans une des agences les plus proches de chez vous, on a 80 en France, et là vous êtes reçu par un de nos inspecteurs qui fait une inspection très complète du véhicule, qui dure à peu près une demi-heure, et au bout de la demi-heure, on vous fait un prix ferme de rachat qui est un prix donné dans 100% des cas sur tout type de véhicule.
Voilà, là on prend pas, on choisit, ouais. Finalement on est libre.
Vous êtes libre.
Voilà.
Mais alors pourquoi je vais passer par vous plutôt qu'une concession ou le particulier à particulier?
C'est rapide, c'est garanti.
Alors, c'est rapide, c'est garanti. Et aussi, de manière générale, on est une boîte technologique. Donc on est aujourd'hui présent dans 30 pays en Europe et on a un réseau de plus de 60 000 acheteurs professionnels qui, en fait, tous les jours, en fait, achètent des véhicules sur la plateforme. Donc ce qui fait que avec la technologie, avec notre force aussi d'opération, on est capable, à un particulier, n'importe où en Europe, prenons par exemple un particulier qui veut vendre une Smart à Pau. Mmh. Peut-être que Pau, c'est pas le meilleur marché pour une Smart. Paris est un marché beaucoup plus intéressant. Mmh. Eh bien, en une demi-heure, il va à l'agence de Pau, de VendezVotreVoiture.fr.
Oui, parce qu'il y a aussi des agences physiques. Ça, c'est important.
Alors, nous avons des agences physiques pour inspecter les véhicules. Et au bout de cette demi-heure d'inspection, nous pouvons lui donner le meilleur prix européen pour son véhicule. Et ça, avec un don d'ubiquité, on est le seul à le faire parce qu'on est les seuls à être construits. On a une plateforme technologique à la base.
Vous êtes dans plus de 30 pays, hein, c'est ça?
On est dans 30 pays, dans toute l'Europe continentale.
Prix de rachat. Par contre, on va être honnête. S'il la met sur en annonce, il pourra forcément, s'il décide de la vendre lui-même directement en particulier, il la vendra un petit peu plus cher.
Oui, mais il risque de ne pas la vendre parce que s'il perd.
Il risque de perdre du temps.
Alors, je pense qu'il faut qu'on garde, de manière générale, les prix de vente entre particuliers sont bien sûr plus élevés que si on voit un professionnel. Maintenant, c'est pas vrai pour tous les cas. Typiquement, il y a des forts arbitrages de prix du véhicule d'occasion. Mmh. Et nous, comme on est vendu dans 30 pays, on arrive à arbitrer entre ces prix-là. Donc, si typiquement un véhicule, je vais prendre on reste sur la Smart. Donc, le marché parisien, marché très élevé de la Smart, parce que c'est une capitale très dense. Prenons typiquement, un pays dans le nord de la Finlande où peut-être les Smart c'est un peu plus exotique. On est capable de donner à un Finnois le prix parisien d'une Smart. Donc, peut-être que sur son marché local, on est capable de l'acheter plus cher que la vente entre particuliers.
Dernière question, parce que le temps passerait très vite. Quelles sont les garanties que vous m'apportez que je sois acheteuse chez vous sur VendezVotreVoiture.fr ou que je sois vendeuse?
Alors, déjà, VendezVotreVoiture.fr, c'est si vous êtes vendeur. Donc, on vous paye sous 24 heures. Le véhicule, nous occupons de toute la paperasse. Vous n'avez pas besoin de faire un contrôle technique, ce qui n'est pas
bien.
Le cas si vous vendez entre particuliers. Et le prix, il est très fair. C'est-à-dire qu'on est une plateforme qui a rationalisé en fait cette vente. Donc le prix, vous allez être sûr que le prix est très compétitif par rapport au marché.
Et qui me paye? Vous
C'est nous qui vous payons.
Parce que sur votre site, il y a des voitures en vente.
Alors, nous avons, donc c'est nous qui vous payons. Donc toutes les transactions passent par nous et après nous on les revend. Et on est en train de développer, pour la vente à particulier, mais ça c'est le petit bébé du groupe Auto1, un site qui s'appelle AutoHero, qui sera là pour en fait permettre des achats en fait pour les particuliers beaucoup plus optimisés.
Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qui est
l'objet
bien.
D'une nouvelle.
Ce qui est bien, c'est aventure. Ça permet à chacun de faire son évaluation en ligne. On peut regarder. Ensuite, si on est intéressé, vous savez quoi? Eh bien, les Français, du coup, avec vendevotrevoiture.fr, ils prennent rendez-vous. En fait, c'était très clair. Je trouve que c'était clair.
Ouais, mais c'est pour ça qu'on voulait les mettre en avant. Voilà, parce c'est que simple. C'est
et puis,
très bien
et puis, t'as le choix, en fait. Tu fais ton estimation. Donc, si ça te convient, tu vas. Ça te convient pas, tu vas
et
pas.
C'est ça.
Simple.
Et Pierre, vous disiez que c'était pour les gens qui ont d'argent cash rapide. C'est une catégorie de personnes qui vient nous voir. Mais pas que. Typiquement, des gens qui s'achètent un véhicule d'occasion ou neuf et qui après font un peu la tournée des popotes pour voir qui est le mieux disant. Et on est un acteur de référence
dans
parce
les mieux disant. Ah ouais, côté on, prix quoi, vous êtes on, un de ceux qui proposent le meilleur.
On est souvent benchmarké par des organes tiers, hein, type l'Argus, etc. Enfin, il y a des magazines télévisés qui nous benchmarkent. Et on est très souvent, de par notre réseau européen, en tête des rachats.
Eh ben, merci beaucoup d'être passé au studio de Sud Radio. Alexandre Roumarin, vous êtes directeur général de VendezVotreVoiture.fr pour la partie France. Et bravo, on va évidemment conseiller à tous nos auditeurs d'aller se promener sur le site et de faire leur popote, comme vous dites.
Merci beaucoup.
Allez, après la voiture, on passe à la moto. Et je vous propose tout de suite de partir en Normandie avec Jean-Michel Lenné pour de nouvelles découvertes moto.
Sud Radio Moto, Jean-Michel Lenné.
Bonjour Jean-Michel.
Merci Laurence, merci Pierre. On part cette semaine à Ouistreham en Normandie. On connaît Ouistreham notamment pour ses plages du débarquement dont on fêtait l'année dernière le 75e anniversaire en grande pompe. Eh bien, à la fin de l'été, sous un grand soleil, les amateurs de véhicules d'avant-guerre s'étaient donné rendez-vous pour la première édition de la Normandie Beach Race. Je vous parle de moto, mais 80% du plateau réuni était composé d'automobiles, si c'est plutôt les autos qui vous intéressent. Tous ces véhicules ont en commun d'être des véhicules d'avant-guerre. Concrètement, la plus ancienne moto au départ datait de 1912. C'était une Contraste Jap, une marque anglaise totalement disparue. Et les plus récentes datent du début des années 50.
Oui, mais alors quel genre, Jean-Michel, de moto on trouvait à Ouistreham?
Il y avait un peu de tout, des motos qui ont participé au débarquement. J'avais rencontré Christophe avec son Harley Davidson canadienne. On l'écoute.
C'est un WLC, c'est ce qu'avait l'armée canadienne en fait.
D'accord.
Elle a été retransfigurée pour pouvoir courir en course.
Ouais.
Donc tout ce qui était militaire a disparu.
Ouais.
Pas mal d'options d'époque ont été retrouvées pour être installées dessus.
Ouais.
Et légèrement modifiées pour pouvoir courir. C'est la première en Normandie, en France même.
En France.
C'est une première pour moi aussi.
Il n'était pas le seul à Ouistreham avec une moto qui a fait le débarquement. Bernard venait de Belgique avec une sublime WLA, une Harley dans sa version américaine cette fois-ci.
Je suis sur cette petite machine et que c'est un événement exceptionnel. Je suis belge et on est très bien accueillis en France. Je suis plutôt ici pour faire la fête avec des gens que j'aime bien. Mais c'est beaucoup plus important. C'est une 750, une WLA avec un moteur qui est un peu préparé, qui a un peu haute compression. Dans un petit châssis très léger.
Il n'y avait que des motos lors du débarquement ?
Pas du tout, ces machines d'avant-guerre sont bien représentées. La moto de notre ami Bernard était pas mal modifiée. J'en ai trouvé une autre avec une très belle histoire, celle de Jean-Claude, qui rêvait de l'Axalé à Bonneville aux États-Unis. Il a construit sa moto autour d'un moteur Rush de 1926 et toute sa famille était avec lui pour cette aventure américaine. On l'écoute.
Pour moi, c'était une première et j'en ai rêvé pendant 30 ans de ça. Et un jour, on a fait sans famille. Et quand le moment se présente, eh bien, c'est un moment magique parce que on a cette étendue salée devant nous. Et là, le monsieur qui est là avec son casque sur les oreilles, son micro devant la bouche, quand il nous fait signe de fermer l'écran du casque et que la piste est à nous, c'est un grand moment d'émotion qui me donne pas envie de pleurer. Mais j'ai quand même les poils qui se dressent sur les bras.
Il faut comprendre que cette moto n'est pas faite pour courir sur le sable et il nous explique pourquoi.
Cette moto, elle a été conçue pour rouler sur le sel, uniquement le sel. Donc une partie plane, lisse, très glissante. Le but, c'est d'aller vite. Donc cette moto, elle a été conçue sans frein à l'avant parce que là-bas, il n'y a pas besoin de frein. Je l'avais mise dans cette configuration spécialement pour rouler à Bonneville.
Et qu'est-ce qu'il faisait en Normandie du coup ?
Ben voilà.
Jean-Claude accompagnait Dominique. Dominique est le nouveau propriétaire de cette moto qu'il a fallu adapter pour participer à une course sur sable. C'était une première pour Dominique aussi.
On l'a adaptée parce que normalement, c'est une moto qui est faite pour rouler sur des runs longs et sur du dur. Donc là, on a mis des pneus trial, on a remis des garde-boue, on a remis des choses pour se mettre dans les meilleures conditions ou les moins mauvaises. Et adapter un petit peu la position, mais c'est vrai que le guidon et tout, les gardes sont, et les châsses, tout sont pas... Bon, on verra bien.
Alors sachez pour conclure que ces manifestations sont nombreuses dans les pays du Nord, même si c'était une première en France à Ouistreham. Il faut imaginer l'ambiance avec ces anciennes motos et tous ces pilotes et mécaniciens habillés en costumes d'époque. Les spectateurs viennent en famille, pilotes et motos sont accessibles et les enfants sont ravis. Rendez-vous est pris pour l'automne prochain. D'ici là, bonne route et à bientôt.
Merci beaucoup Jean-Michel pour cette balade en Normandie, un peu historique quand même, ça fait du bien. Allez, dans quelques instants, il sera midi, on va retourner sur l'info avec Sud Radio. Et puis dans quelques minutes, juste après, on va parler de la fameuse voiture qui va vous permettre avec un seul plein de faire 1000 km. On n'en dit pas plus, il paraît que c'est un secret.
À l'essence, pas au diesel, à l'essence, c'est
l'essence.
Ça qui est intéressant.
Ouais. À tout de suite sur Sud Radio dans Ça roule.
Sud Radio, ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret, 11h30.
Et nous voici arrivés dans la dernière demi-heure de Ça roule et c'est parti. Mais alors attention, mesdames et messieurs, c'est parti pour 1000 km que l'on va faire en faisant juste un plein. C'est la grande promesse de la marque que l'on reçoit aujourd'hui, Pierre.
Oui, on reçoit Steve M. Salem de chez Honda France, c'est le porte-parole d'Honda. Et c'est vrai que la pub, on la voit partout en ce moment pour le CR-V hybride. C'est son véhicule qu'il pousse, un SUV. Alors entendez-vous, un SUV, c'est lourd, Malolo, on est d'accord?
On est d'accord.
Bon, alors un SUV, c'est lourd et pourtant avec une grosse voiture comme ça qui pèse lourd, eh bien on va faire 1000 bornes avec un seul plein. Moi je dis, j'ai besoin de comprendre, parce que ça se trouve, si le réservoir il fait 400 litres en même temps.
C'est... Voilà, alors nous, Pierre et Laurence de Saroul et Max à la Réal et Gaspard, on s'est dit, on a envie de comprendre, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Et on en parle avec notre invité maintenant. Bonjour Steve.
Bonjour.
On l'aime bien, Steve Amsalem.
Bonjour, Steve Wonder. Comment ça va?
Ça va super, et vous?
Non, mais parce que les gens qui écoutent l'émission, peut-être que bon, là, vous nous voyez aussi souvent sur le live de Facebook, mais il y a vraiment de jolies personnes dans le monde de l'auto, et Steve en fait partie.
Merci.
Non, mais voilà. Franchement, là, c'est pas de la flagornerie, vous savez très bien ce qu'on pense de vous. Alors,
c'est
non, rajoutez pas.
Et je vous retourne le compliment.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que.
Non, mais
ce qui est génial, c'est tu sais, quand tu vas voir quelqu'un qui est passionné par sa marque, celle qui vend, et qui t'explique plus que tout que lui, il s'en passerait pas parce qu'il l'aime profondément. Bah déjà, de base, t'as envie de lui faire confiance. Et en plus, quand il est bon client, il est sympa, il parle bien, il transmet cette passion auto aux autres, et bien là, ça fonctionne. Quoi.
Et en plus, Steve Amsalem de chez Honda, c'est un gros passionné. Enfin, gros, non, parce qu'il est grand et fin, il fait beaucoup de sport, beaucoup de natation, mais surtout, c'est un vrai beau passionné de voitures. Steve, les dernières voitures que vous avez essayées il n'y a pas si longtemps, avant la fin de l'année, sur les belles routes de Champagne, lors d'une journée particulière.
Bah alors, je peux en parler, c'était pas des Honda. Pour le coup.
Non, ouais.
Bon, on a quand même la NSX en équivalent de supercar, mais oui, Lamborghini Aventador S, AMG GT chez Mercedes, Alpine, la petite française qui est incroyable.
Incroyable. Elle est géniale, hein. Je l'ai encore suivie hier sur la route. Moi, je suis à la limite à deux doigts de craquer sur
elle
l'Alpine.
Elle est superbe. Je vais pas trouver de défaut en fait, c'est hallucinant. Elle est incroyable. Cette voiture, on peut être fier, c'est un produit français en plus pour le coup.
Voilà, donc c'est ça. C'est aussi ça, Steve.
Il aime les voitures.
Ouais.
Voilà, il aime les voitures. Donc quand un gars aime la voiture et te dit derrière, bah, regarde, moi je défends aujourd'hui, je suis venu défendre mon nouveau véhicule de la gamme Honda qui s'appelle le CR-V et c'est là que ça marche. Il est essence, mais il est surtout hybride, Steve. Et la pub...
Et on l'a testé tous les deux.
Une promesse, vous écrivez un plein 1000 km.
Ouais.
Alors, je vais vous dire franchement, en temps normal...
On l'aurait pas cru.
Non, j'aurais dit ouais, et puis, mais 2000 pendant que tu y es. Et en fait, j'ai testé. Et là, j'ai réussi à faire tomber la consommation moyenne du CR-V hybride à 4 litres au 100. Et je me dis, ben là, ouais, ça vaut le coup de mettre l'accent dessus parce que c'est vrai. Alors évidemment, ça dépend de la façon dont on conduit, Steve.
Ouais, c'est clair.
Non, mais ça reste avant tout, parce que les auditeurs, ils vont se poser la question, ça reste avant tout une promesse.
Voilà.
C'est du marketing, on va pas se le cacher. Mais c'est réalisable. On n'a pas le droit aujourd'hui de faire de la publicité mensongère en France, heureusement. C'est réalisable.
Ça a été
selon
réalisé,
les normes.
D'ailleurs,
ça a été réalisé.
Là.
Moi, je roule en CR-V hybride. Je suis venu vous voir aujourd'hui avec mon CR-V hybride. J'ai récemment fait le plein sur cette voiture. J'affiche affichait 1079 km d'autonomie. Alors après, je fais de la ville, je fais de l'autoroute, je fais de la route, les consommations changent, j'ai pas le pied lourd, mais il peut l'être un peu plus parfois sur route ou sur autoroute, et effectivement, on est en dessous des 1000 km, mais on n'est pas très loin.
Ouais. Moi, je l'ai essayé aussi, puisqu'on aime bien essayer tous les deux ce dont on parle, hein. On est un peu comme au téléachat, on teste tout, c'est en tout cas, c'est mon cas. Explication, texte, trois motorisations.
Oui.
Dans ce même véhicule, il y a trois moteurs. Déjà expliqué pour qu'on comprenne ce qu'est cette hybridation propre à Honda, etc.
En fait, il y a deux moteurs. Il y a un moteur électrique et il y a un moteur thermique. Et ensuite, il y a une génératrice.
Voilà, c'est ça, le troisième moteur, c'est une
génératrice. Donc, il y a à peu près 190 chevaux, 184 chevaux pour être précis en électrique.
Ah, ça roule bien.
Ouais, ça, oui, et puis ça accélère. Ça. En fait, on a le comportement d'une voiture électrique sur un SUV. Le SUV fait environ 1,7 tonne, juste pour information, puisque vous parliez de poids aussi et de taille de la voiture. Un moteur électrique, 190 chevaux à peu près. Un moteur thermique, qui est un 2 litres atmosphérique, qui permet de venir en aide au moteur électrique dans les phases d'accélération. Mais surtout, ça c'est la fonction, on va dire, seconde. La fonction première, c'est de faire tourner la génératrice qui recharge les batteries. Donc en fait, on est quasi tout le temps en électrique en ville. J'ai même eu l'occasion de me retrouver sur autoroute à 140 en électrique.
Ouais, mais pas longtemps. 140 en électrique, on va être honnête, ça dure pas 25 km.
Non, c'est pas très long.
Par contre, en ville, c'est vraiment ça.
Mais c'est ce qui permet de faire chuter la consommation.
Mais par contre, ce qui est génial, c'est que, regardez, actuellement, Lolo, on est en train de nous dire « Ouais, et si on mettait une taxe au poids des SUV ?» Parce que le SUV, il pollue, il faut lutter contre. Mais là, le CRV hybride, c'est l'inverse. Mais si on met une taxe au poids, le CRV hybride, qu'est-ce qui se passe? Il est un peu plus lourd, mais il a à l'intérieur une partie hybride, dont une partie motorisation électrique, avec forcément des batteries qui sont lourdes, qui alourdissent le véhicule. C'est-à-dire qu'on taxerait plus un véhicule qui pollue moins.
Alors, moi, je voudrais savoir quand même deux, trois petites choses. Parce qu'on voit qu'en France, l'électrique a un petit peu du mal à prendre. Là, ça va reprendre un peu plus, parce qu'on sait très bien que cette année 2020, l'Europe pousse pour que les concessionnaires, pour que les marques vendent de l'électrique, etc. etc. Mais concrètement, il y a des craintes sur l'électrique, et en l'occurrence, là, on parle bien d'un véhicule qu'on n'a pas besoin de brancher à sa prise.
Oui, alors c'est pas un plug-in hybride, le plug-in, ça se branche à la prise. Mais alors, souvent, on nous dit, voilà, le CRV, il n'est pas plug-in, il ne se branche pas, etc. Bon, l'apport du moteur thermique permet de recharger, comme je l'ai dit, les batteries via une génératrice. Donc j'ai envie de dire, il y a peut-être des auditeurs qui vont sursauter, mais où est l'intérêt de le brancher? En sachant que, alors en ville, c'est très compliqué de trouver une prise et tout le monde n'en a pas une dans son parking, ça c'est la première chose. Et en sachant qu'il y a une étude qui a été récemment menée qui prouve que les propriétaires de plug-in rechargent quasi jamais leur voiture. Ce qui font qu'en fait, on se retrouve avec une voiture qui consomme plus de 10 litres au 100, parce que l'intérêt de l'électrique, justement, c'est de diminuer les consommations. Donc charger la voiture, oui, mais trouver le point de charge quand on a une prise chez soi ou dans son appartement ou dans sa maison, c'est super. Mais effectivement, derrière, nous, on est parti sur le principe, ce qui ne va pas empêcher qu'on sortira certainement du plug-in dans les prochaines années, parce qu'il y a une demande, mais on est parti sur le principe de faire cette hybridation qui est différente encore de nos concurrents.
Et puis par contre, il faut comprendre que avant qu'on ait un réseau de bornes de recharge électrique en France qui soit véritablement suffisamment fort pour qu'on ne se pose pas la question et qu'on ne fasse pas la queue derrière, parce que vous imaginez cet été, si on part tous en vacances, on a tous besoin d'une prise arrivée à Clermont-Ferrand, je vous dis, il va y avoir du monde à la station, puis c'est pas 5 minutes le plein, hein. Minimum une demi-heure, minimum.
C'est sûr.
Donc, au final, on n'est pas prêt encore à passer sur du 100% plug-in, prise, pour ceux qui préfèrent le mot prise. Et effectivement, cette solution de l'hybridation via une énergie traditionnelle, thermique, qui va venir alimenter la motorisation et recharger cette motorisation électrique, moi, je trouve que c'est une solution à court terme qui est excellente. Et le temps qu'il y ait les 30 ans où ils mettent en place des prises, j'ai envie de dire, ok, vous allez me dire qu'Honda, c'est hyper fiable et que dans 30 ans, elle sera encore là, je sais.
Ça, c'est sûr.
Mais en même temps, dans 30 ans, peut-être que je l'aurais vendu quand même.
Oui, c'est sûr, mais je pense qu'on assiste à une révolution dans le monde de l'automobile, personne ne pourra dire le contraire. On change d'air un petit peu, vous savez, on était en période glaciaire, là on change en fait. On change d'air en fait dans le milieu automobile, c'est une révolution. On l'apprend ou on l'apprend pas, on prend le train de la révolution ou on le prend pas, on la subit ou on l'apprend en fait, la révolution. Aujourd'hui, la révolution dans l'automobile, c'est pas uniquement l'électrique, c'est l'électrification. Donc c'est le plug-in, c'est l'hybride classique, c'est l'électrique, c'est l'hydrogène, en tout cas pour nous depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui la révolution, c'est l'électrification. C'est pas que l'électrique.
C'est une des solutions en tout cas qu'on a.
On peut pas tourner la page tout de suite là comme ça et dire le thermique c'est terminé.
Question qui fâche, vous acceptez?
Ah oui, il a le droit.
C'est parti, le prix.
Le prix?
C'est quoi la gamme de prix sur ce CRV qui nous annonce 1000 km?
On
avec
est à
un
partir
plat.
De 32 900, si on parle de prix, 32 900.
9
9. On est sur un modèle d'entrée de gamme mais qui est déjà complet. On n'a pas d'option en fait chez nous. On a des niveaux de finition en hybride.
Hybride à 32?
Oui, 32 900.
moins de 33. Enfin, on va dire 33.
Vous êtes plutôt très, très bien positionné.
On est bien positionné et en LOA, on est à 329 euros.
Pour combien de kilomètres par an?
C'est une très bonne question.
Mais oui, parce que c'est important.
On se base sur un kilométrage. Non, on doit être sur 15. On se base sur un kilométrage.
Parce que c'est ça. On sait très bien que tout ce qui est LOA ou LDD, ça dépend du nombre de kilomètres. Ça ne va pas. Si vous faites 30 000 kilomètres par an, laissez tomber la LOA. C'est pas pour vous. Hein, c'est clair. Ça va être trop cher.
Moins d'avoir une société.
En LOA, on est sur. On va être sur 48 mois. On va être aux alentours de 40 000 kilomètres.
Mais donc 10 000 par an. C'est parce que je disais.
Oui, c'est ça.
Merci. 32 900, tout compris.
32 900, oui.
Pour le CRV.
Hybride.
À partir de 32 900. À partir de 32 900.
Bah oui, mais c'est toujours.
Mais vous dites toute option, vous m'avez dit tout
non,
est.
Non. Quand je veux dire toute option, c'est. En fait, chez nous, on n'a pas d'option. On a des niveaux de finition qui intègrent des équipements. Mais d'entrée de gamme, il est très bien équipé.
C'est-à-dire que ça peut aller.
C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver le GPS, on va retrouver les phares à LED, on va retrouver.
C'est pas des options non, que les autres concessionnaires vous font.
Je vous promets qu'il y a 4 vitres électriques.
Est-ce qu'il y a 4 roues, même vous s'il vous plaît.
Il y a même le rétroviseur.
Et le volant est de série.
Allez, on continue à parler de ces motorisations hybrides qui sont sans doute les motorisations d'aujourd'hui, mais aussi de demain, avec le CRV et Steven Amsalem de chez Honda, directeur communication de chez Honda France. Merci d'être avec nous. Et puis on continue à parler de cela parce que moi je l'ai testé. Tiens, bah, si ça vous intéresse, je vous donnerai mon avis.
Avec plaisir.
Ah bah tiens, tu devines.
Sud Radio.
Ça roule.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Et dans Ça roule, on parle aussi des marques de ces véhicules que l'on trouve chez nous, hein, en France ou en Europe, partout, parce qu'on aime la voiture dans Ça roule, on aime les marques. Et là, c'est Steve Amsalem de chez Honda qui est avec nous, parce qu'on parlait du CRV hybride qu'on a testé tous les deux.
Et toi, tu l'as testé, et t'as dit que tu voulais donner ton avis. Moi, je vais le donner, ça va être rapide, je suis fan. Voilà, comme ça, du début à la fin. Voilà, comme ça, on n'en parle plus.
Alors, moi, je vais expliquer un peu plus. J'ai adoré la conduite sur l'électrique. C'est impressionnant, c'est la première fois que j'avais la sensation de voler. Et pour le coup, je comprends quand les gens disent conduire une voiture électrique, c'est hyper sensationnel dans le sens du mot sens. Parce qu'effectivement, on a l'impression que la voiture, elle survole. Il n'y a pas de bruit, c'est d'une fluidité incroyable.
C'est pour ça que notre campagne, c'est le CRV hybride, l'hybride avec les sensations en plus. Parce qu'il y a vraiment cette sensation qui est tapis volant, en fait.
Tapis volant, c'est ça, monsieur Aladdin. Hein. Non, mais c'est exactement ça. Alors, moi, j'ai aimé, on va dire, je vais être honnête avec vous, à 90%. Il y a 10% qui m'ont gêné. C'est ce purée de bruit. Et moi, je suis une fan des moteurs qui font du joli bruit, que ce soit sur les motos, les Porsche, la Maserati que j'ai essayé. Enfin, tu le sais, Steve, on en a parlé déjà tous les deux. Et là, quand je suis en accélération...
Ah, c'est pas une Maserati.
Sur le thermique, c'est un bruit de mobilette. Et en fait, j'ai pas aimé. C'est quoi? Comment on explique ça?
C'est la boîte, en fait, principalement. Nous, on est sur une ICVT, donc... Vous avez remarqué, il n'y a plus de levier de vitesse, en fait, c'est des boutons. Hein.
Ouais, c'est marrant.
Ça, c'est plutôt sympa, parce que même visuellement, c'est très design. C'est simplement le variateur, en fait, c'est un vario, en fait, la boîte. C'est le même principe qu'un scooter, en fait, un 125, quoi. Donc, en fait, c'est propre, en fait, à tous les véhicules, je dirais. C'est pas pour me défiler que je dis ça, mais propre à tous les véhicules hybrides équipés d'une boîte CVT. Les Japonais sont assez friands de la boîte CVT sur leurs véhicules. Et c'est ce qu'on va retrouver, effectivement, quand on écrase de pied. Ce qui veut dire qu'avec une hybride, pour éviter ce genre de déboire, de bruit, ben en fait, faut adapter sa conduite. Moi, ça fait 10 ans que je roule en hybride. Je dis pas que vous avez le pied lourd. Mais, effectivement.
C'est pas le pied que j'ai lourd.
On a un comportement différent avec un véhicule hybride. Et au bout de quelques mois d'utilisation, vous l'avez eu sur une période trop courte, mais au bout de quelques mois d'utilisation.
On s'y fait.
En fait, on accélère. On rentre sur une autoroute. Il y a une façon de faire.
Il y a une conduite différente.
On n'écrase pas. Avec le Levante, il n'y a pas de problème.
L'hybride, c'est un autre type de conduite. C'est vraiment, faut adapter.
Très coulée. Une conduite très coulée.
Mais c'est impressionnant.
C'est vraiment une conduite économique en soi, parce qu'on l'applique à la motorisation. C'est-à-dire, justement, il y a ce son qui vous permet de comprendre si vous êtes dans quel type, si vous êtes sur une motorisation, si vous êtes sur l'électrique, si vous piochez sur l'essence. Vous avez la consommation de carburant qui est juste devant vos yeux. Donc, du coup, ça permet un petit peu de se réguler.
Bah, ça devient un jeu. Ouais. Ça devient un jeu. Mais c'est l'inverse du Maserati, pour citer cette marque, parce que j'adore Maserati Levante. Je l'ai essayé, c'est incroyable.
C'est le SUV, il est magnifique.
C'est le SUV,
vous
splendide.
Vous avez essayé combien de chevaux?
C'était le V6 que j'ai essayé. Ouais, et c'est l'inverse du Levante, ou d'un SUV, ou du Lamborghini ou d'autres. C'est, il faut accélérer pour envoyer. Et là, c'est vraiment l'inverse. Il faut avoir une conduite coulée.
Et ça,
pour passer en électrique.
Oui, parce que sinon, enfin, je veux dire, c'est pas une sportive. Donc, effectivement, le bruit sera pas.
Non, mais voilà, c'était le seul petit détail.
Alors, donc, moi, j'ai trois petites questions très simples. Je me dis, vous nous parlez de 1000 km. Alors, c'est beau avec un plein. Mais le réservoir, il fait combien? Parce que si on a un réservoir de 600 litres.
Non.
On est bien d'accord.
Non, Probi, on n'a pas mis de réservoir sur le toit. Ou quoi. Non, il fait une cinquantaine de litres, le réservoir.
D'accord. Bon,
il est même moins gros que ce à quoi on peut s'attendre.
On n'a pas des gros réservoirs. Chez Honda, on n'a pas des très gros réservoirs, en fait. Étonnamment, les gens sont assez surpris.
Ouais, même l'ancien CRV diesel.
Ouais, ça, on doit être un peu en dessous de 50 litres. Ouais, 47 ou 48 litres, ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis, on ne le sait pas en France, parce qu'Honda, finalement, ben, on n'en voit pas beaucoup d'immatriculation. D'ailleurs, moi, je le regrette, je le dis très clairement. Parce que,
moins de 10 000 par an, mais on revient. On va
et pourtant, je commence à en voir, moi.
Il faut savoir qu'en termes de SUV, je me demande même si Honda n'est pas le premier vendeur mondial de SUV. Parce que le deuxième, au niveau des ventes mondiales, c'est le CR-V.
Oui.
Le troisième, c'est le HR-V, je crois.
Ouais, on est dans le top 3. Le premier étant Nissan.
Ouais.
On rendra César quand même, mais récemment, il y a à peine deux ans, puisqu'on était premier. Oui, mais parce qu'on a des marchés qui sont très, très porteurs, qui sont le marché américain, avec un peu moins de 2 millions d'immatriculations, et le marché chinois avec quasi 2 millions d'immatriculations.
Comment vous expliquez le succès du SUV dans le monde et aussi en France, 40% des ventes, les SUV?
Les SUV, je pense qu'on a eu la période, monospace qui a été révolue. On a eu la période SUV parce que design, parce que tendance, c'est une mode. Hein. C'est-à-dire, c'est comme dans la mode, c'est comme dans le prêt-à-porter. C'est exactement la même chose. Il y a eu du SUV bashing dans les années 2007-2008 où vous rouliez en SUV dans Paris, on vous regardait de travers. Ouais, et ça revient aujourd'hui.
Ça revient
aujourd'hui. Mais par contre, il y a toujours une demande forte pour les SUV qui soient petits, compacts ou importants.
Et puis alors, l'argument, ça a été l'argument 100% consommation. On a vu quand même depuis un an et demi, on a compris qu'en France, notamment, les Gilets jaunes l'ont montré, c'est un mouvement qui est parti des automobilistes et qui est parti d'un point, les carburants. Quand on parle de véhicules aujourd'hui, chez les constructeurs, la consommation de carburant, c'est vraiment le point essentiel si on veut séduire l'acheteur. Parce que vous êtes tout basé là-dessus, hein. Servez le bris, 1000 km.
Bien sûr.
Voilà.
Pour séduire l'acheteur, la consommation de carburant, ça c'est clair, net et précis. Et puis pour séduire notre gouvernement et le gouvernement européen, c'est les taux de CO2.
Et ça va ensemble.
Puis attention, il y a autre chose, vous l'avez dit vous-même, puisque c'est un rechargeable par le moteur thermique.
Oui.
Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le brancher, ça veut dire qu'on n'a pas de surcoût également de recharge électrique. Alors qu'on voit très bien, et on en parle souvent dans Ça roule, que le prix du kilowattheure à la pompe est en train d'exploser aussi. Donc, bravo, quoi, jusqu'au bout, en fait.
Bah, il faut. Après, c'est vrai que pour nous, c'est pas vraiment l'avenir, puisqu'on fait de l'hybride depuis 25 ans. Donc, finalement, c'est juste l'adaptation d'une nouvelle technologie qui a changé avec l'arrivée de ce CR-V, puisqu'on était sur une ancienne techno qui était avoir un moteur électrique accouplé à un moteur thermique. Aujourd'hui, c'est le moteur thermique qui vient en aide à l'électrique. L'électrique est le principal moteur de la voiture.
Et puis, on va parler fiabilité, parce que c'est dur de parler d'Honda sans parler fiabilité. Alors là, c'est pas moi qui le dis. C'est, je pense, l'intégralité de la presse automobile mondiale. Honda est certainement la marque la plus fiable, ou en tout cas, de toute façon, dans la tête de classement. Mais pourquoi ? Quand on en parle avec les professionnels de l'auto, ils vous disent tous la même chose. Ils disent parce que Honda a éprouvé une technologie et que cette technologie est arrivée à un niveau de fiabilité tel qu'il la transporte d'un véhicule à l'autre et que lorsqu'il met en place une innovation, il repart toujours de cette technologie de base qui a fait le succès d'Honda. Là, vous arrivez sur une nouvelle techno. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'aspect fiabilité ?
Non, parce qu'en fait, elle a été testée longuement au Japon et qu'elle existe déjà depuis quelques temps au Japon. Elle est arrivée finalement en Europe un peu plus tard.
Forcément.
Nous, on était là accrochés en disant on veut. Maintenant, on l'a. Donc, effectivement, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un centre de recherche et développement. On en a plusieurs, mais il y en a un au Japon qui fait 1 kilomètre de long. Imaginez juste 3 ou 4 étages, 1 kilomètre de long sur un open space. Donc il y a un ingénieur pour le bouton droit de la Civic, il y a un ingénieur pour l'aérateur du CR-V, etc. Chacun travaille sur un sujet. C'est une marque d'ingénieurs. La personne qui a conçu Honda, Soichiro Honda, qui est décédé en 91 malheureusement, était un ingénieur. C'est une marque d'ingénieurs. Nous faisons des voitures grâce au travail des ingénieurs japonais. Donc moi, forcément, pour moi, c'est les plus belles parce que ça fait 12 ans que je travaille chez Honda. Mais j'aime toutes les marques automobiles, mais j'ai une certaine fierté. C'est une marque d'ingénieurs. On fait des produits très fiables. On en est fiers.
Vous parlez d'histoire, marque historique. Je vais y arriver. Le nom de la première, c'était Insight, la première hybride de chez Honda.
Ouais, l'Insight, la première hybride de chez Honda, c'était l'Insight.
Exactement.
Ouais, j'ai eu la chance de l'essayer en plus. Elle était incroyable.
En dehors du Japon, c'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres au Japon avant, mais celle qui a été commercialisée, la première en dehors des frontières du Japon.
Il y en a eu très peu en Europe. J'ai eu la chance de l'essayer. À mon arrivée chez Honda il y a 12 ans, j'étais à 3 litres 2 au 100.
Non.
Sur une boîte méca. C'était une boîte méca, cette voiture. Boîte mécanique. Incroyable.
Alors, Et puis du coup, bon, alors le CR-V hybride, hein, je vais vous dire, si vous avez une famille, 2-3 enfants, cherchez
oui,
pas.
Hein,
faut la tester parce que c'est topissime surtout.
De la place.
Voilà. Après, il y a un deuxième petit SUV qui est juste, j'allais dire, dessous, en taille, qui s'appelle le HR-V. Ce petit SUV, pour l'instant, n'est pas hybride sur le.
Non.
Mais dites-moi, j'ai entendu une phrase d'un certain, alors vous le connaissez peut-être, un type qui travaille chez Honda, il s'appelle Steve Amselem. Il a dit, dans une interview quelque part, l'intégralité de la gamme Honda va être électrifiée. Ouais. Ça veut dire quoi, ça?
C'était 2025, ça, ouais. Cette phrase-là. Ouais. On est descendu à 2022. Dans moins de deux ans, l'intégralité de la gamme Honda en France et en Europe est électrifiée. Ça veut dire électrifié, c'est électrique.
Hybride.
Ouais. Plug-in hybride et éventuellement hydrogène, on ne le sait pas encore. Ouais. Six nouveaux modèles doivent arriver avant 2022. Il y en a deux que vous connaissez déjà. Il y a la Honda E, la Honda E électrique.
Ouais. La Jazz.
D'ailleurs, j'ai essayé il y a 10 jours à Valence en Espagne avec mon ami Alain Bernard, quadruple champion de natation quand même, quadruple champion olympique de natation, dont 2 médailles d'or. C'est plutôt sympa. 1m95, il rentre à l'aise dedans, hein, Alain, si tu nous entends. et donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est la Jazz hybride.
Ouais.
Donc, et donc il y a 4 nouveaux modèles qu'on ne connaît pas encore qui doivent arriver.
Et mon petit doigt
petit
m'en dit
SUV
que...
fait partie de ces modèles. Voilà. Il y a même un deuxième
SUV
modèle à batterie, un deuxième
plus
modèle
que
électrique.
Le HR-V
on ne sait pas encore.
Parce
en fait.
Que alors pour la gamme,
non,
on sera pas,
sur une gamme.
C'est le gros HR-V, c'est celui qui est
on
en dessous.
On sera sur une gamme équivalente au HR-V, donc on peut
d'accord
imaginer
un petit peu
qui sera hybride.
Au-dessus de la Jazz, parce que vous avez déjà relooké la Jazz,
c'est ça,
qui
et
est
alors,
déjà un peu plus.
Steve n'en parle jamais, mais tu sais que Lolo, j'arrête pas de plaisanter sur ce fameux Fiat Multipla.
Oui.
Que
ils vont le reprendre.
C'est vrai, il est pas beau, on va être honnête. Et oui,
moi,
à chaque
bien
fois, tout le monde me dit. Non, mais tout le monde me dit la même chose, tout le monde me dit. Ouais, mais Pierre, c'est la seule voiture.
On était 3 devant.
Où il y avait 3 places à l'avant. Et à chaque fois, je réponds.
C'est
non,
faux.
C'est faux.
Faux.
Il y avait un Honda
FR-V
sur le marché de l'occasion. Vous en trouvez quelques-uns de FR-V qui ont été vendus en
faut
France.
Faut faire vite, hein. Quand on en trouve un, généralement,
FR-V,
c'est 15 minutes. Hein. Après,
FR-V,
ouais, voilà,
faire
c'est
vite
ça, faut faire vite. Voilà, exactement. Et ça, c'est là, effectivement, 3 et 3. Banquette 3 places à l'avant, banquette 3 places à l'arrière. Ce véhicule, il cartonnait sans publicité. On n'a jamais fait de pub autour de cette voiture et on en vendait ce qu'il fallait, quoi.
Et franchement.
Et il était joli.
Mm. Bah,
même si j'aimais le Multipla, quand même. Je tiens à le souligner, je suis un des rares Français qui trouvait que le Multipla était sympa.
Bah, on peut
et pas,
pas
le facelift, hein, la première génération.
T'aimais la Fuego aussi.
Ah, mais ça, j'adore aussi.
Non, mais
voilà, on est d'accord.
Quoi qu'il en soit, vous qui êtes dans les voitures, évidemment, Steve Amselem pour Honda, on est parti vraiment sur de nouvelles motorisations, tout le parc compris, c'est-à-dire que tous les constructeurs
bien
s'y
sûr,
mettent.
Bien sûr.
On va quitter nos moteurs thermiques classiques.
Alors, le moteur thermique classique, j'ai envie de dire.
Diesel ou essence.
Oui et non, il y a certaines marques forcément qui le garderont. Nous, en tout cas, on s'est engagé à électrifier l'ensemble de la gamme et tous les constructeurs, la plupart des constructeurs vont
et vos,
dans ce sens-là.
Et vos concurrents
alors,
directs, non, Toyota.
Électrifier l'ensemble de la gamme, ça veut dire sortir le purement thermique? Non.
Non, en voilà. Fait, on reste thermique. Nos voitures restent thermiques. En fait, quand je dis électrifier, c'est électrique, essence hybride plug-in rechargeable
essence,
ou hydrogène.
Hybride diesel ou pas chez vous?
Non, on ne fait plus de diesel.
C'est fini diesel chez Honda.
Ouais, mais ça fait longtemps. On n'a jamais été des gros dieselistes de
le
toute
marché
façon.
Japonais, de toute façon, n'était pas très propice au diesel.
Non, c'est interdit au Japon.
Parlons concurrence, enfin, histoire de vous piquer un peu pour finir cette émission. Vos concurrents directs?
Ah bah nos concurrents directs, alors Toyota
japonais,
oui,
hein,
parce que japonais, parce que gamme hybride complète.
Ouais.
Après, sur les chiffres, non, parce qu'ils vendent forcément beaucoup plus de voitures que nous, et tant mieux pour eux, et on les envie. Moi, je les envie tous les jours, j'aimerais bien qu'on fasse leurs chiffres. Donc Toyota, effectivement. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre en face d'un CR-V hybride? On peut mettre Volvo, parce que c'est une marque de passionnés, parce que c'est une marque un peu à part dans le paysage comme Honda. On peut mettre aussi Alfa Romeo, quelque part. Mmh. C'est des marques de passionnés. Mmh. Mais c'est principalement les japonais, nos concurrents. Oui, principalement.
En tout cas,
Mazda
pas,
aussi. Mazda.
Je serais pas étonné qu'avec un ambassadeur comme vous, Steve, Honda se mette à immatriculer de plus en plus de véhicules.
Bah, j'espère, hein, c'est tout le mal que je souhaite à Honda. Hein.
Vous savez ce qu'il a fait à son beau-père? Lui, il rencontre sa future femme, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre sa chérie, il rencontre son père, il lui dit, ah, tu sais pas, j'ai un truc génial, ça s'appelle une Civic, attends, tu vas l'essayer. Hop, il a acheté une Civic.
Oui, mais ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Sinon, je peux pas lui demander la main de sa fille. Quoi,
Steve Amselem, merci beaucoup, directeur des communications de Honda
merci
France. Merci d'être venu nous parler de cette voiture qui nous promet 1000 km avec un seul plein. On aura l'occasion, évidemment, cette année 2020, de vous redonner la parole sur sa roule, puisque vous faites partie de nos chouchous et vous dites toujours
merci.
Tout. Sans langue de bois.
C'est gentil.
Merci à vous. Merci mon Pierrot, c'est fini pour aujourd'hui.
Allez, bonne route à tous. Soyez prudents sur la route et puis on se retrouve la semaine prochaine, fidèles au poste. Mais attention, dans une ambiance un peu différente.
On sera sur le salon de l'agriculture.
Ouais, j'adore ce moment-là.
Merci à Max d'avoir réalisé notre rendez-vous et on vous souhaite à tous un bon week-end. À suivre, c'est Invino sur Sud Radio. Ciao, ciao.